Bien, nous allons aller dans le livre des Actes aujourd'hui, au chapitre 6. Et dès qu'on dit chapitre 6 des Actes, tout le monde sait de quoi on va parler, n'est-ce pas? Puisque c'est marqué en sous-titre, ce qui est indiqué l'institution des diacres. Alors c'est très intéressant parce que le mot n'apparaît pas dans le passage. Mais nous allons voir un petit peu cela. Donc le livre des Actes, chapitre 6, et nous allons lire les 6 premiers versets. En ce temps-là, c'est-à-dire au début de l'Église chrétienne, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, nous sommes ici en face d'un passage très connu. Et dès qu'on parle de ce passage, on nous dit tout de suite, « Ah, on va parler de l'institution des diacres. » Mais beaucoup de gens pensent comme ça. Et comme je l'ai signalé, c'est intéressant de voir que les 7 hommes dont il est question dans ce passage ne sont jamais appelés diacres. Il y en a un qui est évangéliste, il y en a un autre qui est prédicateur, les autres on ne sait pas trop, mais ils ne sont pas appelés diacres, jamais. En fait, le mot diacre lui-même n'apparaît pas dans tous les Actes des apôtres. C'est assez intéressant. C'est révélateur de plusieurs choses que nous verrons. Mais en fait, ce passage, comme tout le reste du livre des Actes, nous montre en fait la vie de l'Église. Et si on veut une bonne description du livre des Actes, bon, il y a la description inspirée, hein, c'est ce que Jésus-Christ a continué de faire, c'est-à-dire c'est son œuvre, c'est lui qui continue d'agir, mais en fait, c'est la vie de l'Église. Et ici, au chapitre 6, l'Église de Jérusalem fait face à un problème interne. Elle a eu des problèmes externes, elle en aura encore, mais là, c'est un problème interne. Et dans ce passage, nous voyons comment les responsables et les membres de l'Église réagissent. Et c'est là l'intérêt, la richesse de tout cet enseignement. Parce que il est très peu probable que nous soyons confrontés au même problème. Nos veuves ne sont pas délaissées encore. On n'est pas encore là. Mais donc, on n'est pas face à un problème similaire. Mais dans la vie d'Église, nous rencontrons des problèmes. Et nous verrons même que les problèmes peuvent venir de toutes sortes de sources. Comment les résoudre? Alors, laissons-nous enseigner par la manière dont les apôtres et dont les frères ici ont réagi. Et j'intitulerai ce message ou ce passage « Crise dans l'Église ». Au moins, ça c'est pas mal, hein? Ça fait un article, un titre d'article. Mais « Crise dans l'Église ». Et examinons comment les premiers chrétiens réagissent ou ont réagi. Et nous ne sommes pas défavorisés par rapport à eux. Eux, ils avaient les apôtres en chair et en os. Ça créait des problèmes, d'ailleurs, nous voyons ici. Nous avons les apôtres dans leur enseignement, avec une certaine perspective. Donc, en fait, on n'est pas défavorisé par rapport à eux, mais au contraire, on pourrait dire qu'on a presque un avantage, l'avantage du panorama. Une chose à souligner d'entrée, c'est qu'il faut faire très attention à ce que nous importons dans le passage, à ce que nous pensons fait partie du texte et de la situation qui en fait n'en fait pas partie. Par exemple, comme j'ai dit, cette histoire d'une institution des diacres, et c'est très courant, nous avons même ça la plupart du temps en sous-titres non inspirés dans nos Bibles. Mais voyons en premier lieu quelle est la crise, d'où vient la difficulté à laquelle l'Église fait face. Et Luc nous l'indique au verset 1. Regardez, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. » Alors en fait, la bénédiction de Dieu sur l'Église entraîne des problèmes. C'est intéressant à remarquer. Savons-nous en fait ce pourquoi nous prions quand nous demandons à Dieu d'augmenter notre nombre? Ça peut amener des problèmes. Quand on multiplie les pécheurs dans un groupe, on multiplie les problèmes, n'est-ce pas? Alors on se dit, ah mais si seulement le Seigneur augmentait à notre nombre. Bon, il l'avait fait là d'une façon assez remarquable et ça causait des problèmes parce que le nombre des disciples augmentant, la structure de l'Église naissante ne pouvait plus faire face. Des disparités se manifestaient. Alors, c'est quand même intéressant de remarquer que l'Église n'était pas structurée de façon à faire face à tous les problèmes. C'est un peu le problème que nous avons aujourd'hui dans les dénominations, ou tout au moins dans l'esprit des dénominations, c'est-à-dire qu'on essaye de faire face à tout, à anticiper tous les problèmes. Mais l'Église primitive n'était pas comme ça du tout. Et c'est une chose importante pour nous à remarquer. Et donc, il semblait que les veuves d'un certain groupe en particulier, étaient défavorisées. Alors, n'y voyons pas nécessairement une mauvaise intention ici. La situation, simplement, devenait ingérable. Ingérable. C'est pas qu'il y avait un groupe qui était plus vicieux que l'autre ou qui voulait se faire voir plus que d'autres. Non. Simplement ingérable, les structures qu'ils avaient mises ou les façons de faire ne suffisaient plus et il fallait réagir car on avait ici une semence pour la discorde et un terrain très favorable pour que cette semence puisse commencer à se développer. Regardez, les hellénistes, au verset 1, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Donc, on a une source de difficulté ici. En fait, on est, je pense, au courant de ce qui se passait. Il y avait des gens qui étaient convertis, la plupart, rappelons-nous, probablement tous, pas tout à fait tous, puisqu'il y avait Nicolas, un prosélyte, ce n'était pas un juif. Il y avait quelques-uns qui étaient prosélytes, mais la plupart étaient juifs, mais même parmi les juifs, il y avait des différences. N'ayons pas peur de nos différences. Il y avait ceux qui étaient de Jérusalem, les juifs de juifs, hein, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment les plus puristes, on dira. Ils n'étaient pas purs, mais puristes. Et puis il y avait ceux, les hellénistes, c'est-à-dire les juifs qui venaient de la dispersion, ceux qui vivaient en territoire grec, majorité grecque, et souvent il fallait qu'ils composent. Probablement c'était des gens qui avaient un peu plus de difficultés avec l'hébreu même. Bon, peu importe les détails. Ceux de Jérusalem avaient certainement certaines habitudes, et donc leurs veuves étaient plus au courant. Les hellénistes c'était des gens qui venaient du dehors. Il fallait qu'ils apprennent certaines choses et il y avait des veuves qui étaient défavorisées. Donc il y a plusieurs leçons qu'on va retirer du passage de cette situation sous ce titre de crise. Premièrement, l'Église est toujours sur la terre. Alors, c'est une chose de laquelle on est péniblement conscient, mais ça vaut le coup de le dire. L'Église est venue à l'existence juste un peu avant, et c'est une merveilleuse bénédiction. Sa multiplication est une source de grande réjouissance. Quand on pense, nous on pense avec envie au fait qu'il y avait 3000 âmes, ensuite 5000, mais la perfection n'est pas encore là. Et ça, c'est une chose qu'il nous faut garder à l'esprit. Nous vivons peut-être un moment de communion dans notre petitesse qui est merveilleux, mais la perfection n'est pas là. La perfection n'est pas là. L'Église se compose sur terre de pécheurs sauvés par grâce. Et l'Église dans le ciel se composera toujours de pécheurs sauvés par grâce. Leur péché ne sera plus là, mais il est encore là. Nous ne sommes pas glorifiés avant la consommation de toutes choses. N'attendons pas la perfection dans l'Église. Elle viendra, mais elle n'est pas là. Et quand quelqu'un se convertit et se joint à l'Église, c'est une merveilleuse occasion de se réjouir. Et nous voulons prier pour ça. Nous le désirons. Et nous devons nous réjouir sans arrière-pensée. Veillons à ne pas devenir trop prudents. Il y a des gens qui accueillent un peu n'importe qui dans l'Église. Nous le voyons à droite à gauche, on baisse la barre. Mais de notre côté, faisons attention de ne pas monter la barre trop haut non plus. Reconnaissons quand Dieu agit et réjouissons-nous-en. Mais le croyant avisé se rappelle que le nouveau chrétien amène avec lui une personnalité et tout un bagage qui, sans exception, sont tordus par les effets de la chute. Si la personne est vraiment convertie, récemment convertie, il y a eu un changement, une nouvelle nature est venue, c'est une nouvelle personne, mais il y a encore un bagage. Rappelons-nous-en, c'est simplement une réalité. Donc, l'Église est encore sur la terre. Deuxièmement, la source des problèmes dans l'Église provient de notre humanité. Ça ne vient pas de la bénédiction de Dieu directement. L'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Christ, détruit toutes les barrières. Il renverse le mur des séparations. La séparation entre Dieu et l'homme et la séparation entre les hommes. Et nous avons cette merveilleuse chose dont Paul nous parle dans Éphésiens 2. Il a renversé le mur. Il n'y a plus ni juif ni grec maintenant. Il y a un seul. Mais l'Évangile a vraiment balayé toutes ces choses-là. Il n'y a plus même, face à l'Évangile, ni homme ni femme, dans un certain sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défavorisé, quoi que ce soit. De par lui-même, l'Évangile ne cause pas de problème. Ça, c'est une chose à laquelle il faut qu'on soit absolument certain. Absolument saisi. Mais l'Évangile se répand dans un monde de péché. Il touche des gens dont l'ancienne nature est charnelle et dont l'ancienne nature restera charnelle jusqu'au bout. Elle sera mise à mort. Mais la persécution et l'opposition qui surgissent face à la présence de l'Évangile ne viennent pas du message de paix en lui-même, mais du péché de l'homme. De l'opposition invétérée de l'être humain naturel vis-à-vis de la souveraineté de Dieu. L'Évangile lui-même n'amène pas de difficultés, de problèmes. Au contraire, c'est un Évangile de paix. Et comme je l'ai dit, il traverse, il passe au-dessus des barrières, si bien que juifs et païens, la plus grande division qu'il y ait jamais eue, peuvent être dans la même assemblée. Et c'est merveilleux. Et nous-mêmes, nous vivons ça aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas de juifs, mais je me rappelle la personne qui disait « Ah, mais un Français marié avec une Anglaise, ça c'est vraiment un signe de la grâce. » C'est un peu pareil, n'est-ce pas? Ici, par exemple, le problème surgit entre la section helléniste de l'Église naissante et sa section hébraïque. Mais ces distinctions ne viennent pas de l'Évangile. Parce que les uns et les autres sont dans cette nouvelle Église. Vous voyez, l'Église, l'Évangile n'a pas fait une distinction. Les Hébraïques, les Hébreux sont des meilleurs ou des chrétiens plus, au contraire. Ça, c'est les hommes qui vont importer la chose et Paul va se battre contre ça énormément. Non, ces différences viennent de la culture. Certains juifs croyants étaient plus ouverts sur le monde grec que d'autres. Il y avait donc une distinction ici qui ne venait pas de l'Évangile et qui menaçait de devenir une division. Si certaines veuves d'un groupe étaient négligées, pas besoin pour nous d'y voir de la malveillance. Rappelons-nous simplement que le nombre des disciples augmentait et qu'il augmentait beaucoup. Alors, nous avons vu quelquefois dans notre vie d'église, on a eu des gens qui sont venus, donc le nombre a augmenté un petit peu, et déjà nous avons eu des ajustements à faire. Puis parfois, des problèmes se sont développés. Alors imaginons quand il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent. Ça, c'est impossible de faire face vraiment directement. Les Juifs hébraïques, comme je l'ai dit, étaient probablement plus implantés à Jérusalem, alors que les hellénistes eux-mêmes, venant du dehors, étaient probablement moins organisés. Il est très intéressant d'ailleurs de remarquer que les sept hommes à qui on confie la tâche de servir aux tables particulièrement, là, ces sept hommes dont la liste est donnée, ces hommes pleins de foi et d'Esprit Saint, sont tous des noms grecs. Ils proviennent donc tous de cette section de l'Église, probablement pour remettre l'équilibre. Donc, nous avons vu, l'Église est encore sur la terre, la source des problèmes dans l'Église provient de notre humanité, jamais de l'Évangile. Troisièmement, la nature humaine a toujours en elle le penchant vers la rébellion. Là encore, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réalise et qu'on réalise à la première personne du singulier. Ça n'est pas quelque chose qui est là-bas, c'est en nous, en nous. Au verset 1, nous disons que face à la situation provoquée par la bénédiction du Seigneur, les hellénistes murmurèrent. Leurs veuves sont négligées, donc ils murmurent. Il y a ce penchant à la rébellion. On dira, mais bien entendu, ils ne veulent pas qu'on bafoue leurs droits. Ils ne voulaient pas être les victimes d'une injustice. Cela est un sentiment tout à fait naturel pour la nature humaine, même si on peut arguer nous-mêmes qu'ils n'avaient pas de droit dans la rédemption. C'est une grâce. Mais on comprend très bien ce qui les animait, n'est-ce pas? Chacun de nous connaît ce sentiment. Il y avait des dysfonctions dans l'Église, des dysfonctionnements, mais est-ce que c'était une injustice? Non, c'était simplement un dysfonctionnement. En tout cas, même face au fait que des croyants, les veuves souffraient, on peut légitimement se poser la question, pourquoi murmurer? Qu'est-ce que ça amène? Cela ne sert à rien. C'est complètement étranger à la vie du royaume, en fait. Parce que ce n'étaient pas les hommes, ce n'étaient pas les responsables qui fournissaient, qui pourvoyaient aux besoins des veuves. C'était Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas? Et donc, on peut se demander pourquoi murmurer. Certains ont l'habitude de dire il n'y a pas de problème, seulement des solutions. C'est peut-être un peu désinvolte de dire ça, mais c'est tout à fait vrai, en fait. Et murmurer ne va pas trouver une solution. Simplement, ça met en relief plutôt le problème. Pourquoi murmurer? Parce que la nature humaine fonctionne toujours ainsi. Et nous avons en cela la semence des problèmes et des difficultés et des divisions. Alors, que faire à la place de cela? La situation résulte d'une grande bénédiction de Dieu. Le nombre des disciples augmentait. Ceci surpasse les ressources humaines. Les veuves, certaines veuves sont négligées. Il n'y a plus assez de temps. Il y a probablement suffisamment de ressources, mais plus assez de temps pour faire cela comme il faut. La situation devient tendue, explosive. Est-ce que cela nous rappelle une situation semblable? Est-ce qu'on peut penser à un moment, à une situation qui est dans le même sens? Et si nous allons à Genèse 13, nous allons voir la même chose. Si on commence chapitre 13, Genèse chapitre 13, verset 1, « Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. » Déjà, on voit quelque chose. « Et Lot avec lui. » Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, tout va bien. Tout va bien. Il dirigea ses marches jusqu'au midi, jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Bon, on a examiné ce passage il y a quelques mois, donc on est au courant. Mais là, on voit justement une situation de grande bénédiction. Bénédiction physique, hein, des troupeaux, de l'or, de l'argent, mais bénédiction aussi spirituelle. Abraham, après son écart en Égypte, revient à l'Éternel. Il revient, comme on dira plus tard au sujet d'Isaac, il revient aux anciens puits, là il revient aux anciens autels, et il invoque le nom de l'Éternel. Mais, et alors, ce n'est pas simplement ça, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers. On a la même situation ici, vous voyez, hein? Une situation aussi ingérable et explosive. Là aussi, la cause, c'est la bénédiction de Dieu. Une bénédiction physique, une bénédiction naturelle, mais aussi une bénédiction spirituelle. Et regardons au verset 8. Abraham dit à Lot. Abraham dit à Lot. Et de même qu'en Acte 6, nous avons besoin que quelqu'un intervienne et qu'il le fasse spirituellement. Parce que regardez ce que dit Abraham. Abraham dit qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Pourquoi ? Car nous sommes frères. Et ça, c'est vraiment le secret de la vie de l'Église. Il faut que quelqu'un intervienne et qu'il le fasse spirituellement. Car nous sommes frères. Telle est la règle d'or dans l'Église. Et c'est ce que nous voyons se produire en Acte 6. Si on revient à Acte 6, hein, nous lisons au verset 2, regardez, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Les 12. Nous avons donc vu ici quelle était la crise. Il y a une crise, quelque chose devient ingérable, et c'est la bénédiction même de Dieu qui est la source de cette situation. Vous voyez, c'est donc très important pour nous de voir ces choses-là. Donc l'Église est encore sur la terre, la source des problèmes dans l'Église provient de notre humanité, la nature humaine a toujours ce penchant vers la rébellion. Et pourquoi est-ce que je souligne ça? C'est parce que souvent, surtout aujourd'hui, où on est dans un climat général, où quand même le pluralisme, cette espèce de postmodernisme nous touche, en fait, bon, on a diverses perspectives et tout ça. Il faut plutôt inclure que avoir des actions décisives. Et beaucoup dans les églises, beaucoup même de responsables vont dire, bon, la chose va se régler. On va laisser courir la chose. Et nous-mêmes, nous l'avons vécu. On a essayé de composer des fois avec des situations alors qu'on aurait dû réagir beaucoup plus vite. Il faut une réaction, il faut qu'il y ait une intervention, mais une intervention spirituelle. Et c'est important pour déterminer si la rébellion est quelque chose qui est, par exemple, simplement la réaction naturelle de l'être humain à une situation ingérable ou si c'est quelque chose de plus profond. Donc on a vu la crise. En deuxième lieu, j'aimerais qu'on regarde les apôtres. Les apôtres. Alors, ils avaient les apôtres ici, mais on parle des responsables, en fait. Il y a beaucoup de choses dans ce texte qui ne sont pas dites. Et c'est pour nous très important, quand nous lisons la parole de Dieu, en particulier les actes, mais pas simplement les actes, quand nous lisons ces passages qui sont des passages qui racontent une situation, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et notre danger, c'est de lire simplement de façon religieuse, c'est-à-dire de lire une situation de papier, pas une situation réelle. Mais en fait, c'est une situation réelle, comme celle que nous avons vécue il y a quelques années. Il y avait des tensions. Il y a des gens qui probablement ne se parlaient plus. Vous voyez, il faut qu'on le sente. Et aussi, il faut qu'on sente quand, par exemple, les 12 arrivent, comme ça, sur la scène. Ils n'arrivent pas simplement comme ça, justement. Il y a d'autres choses qui se passent, qui ne sont pas dites. Et on peut les déduire de ce que nous lisons. Par exemple, pour prendre un autre exemple, nous avons coutume de penser que l'apôtre Paul, c'était un homme, un gendarme, un monsieur Teflon, quelqu'un que le découragement ne pouvait pas toucher. Hein? On a l'impression que c'est un gars, c'est impossible qu'il soit à terre. Il est toujours le fonceur. C'est le bulldozer, n'est-ce pas? Et on lit certains passages comme ça sans réaliser. Regardez par exemple Actes 18, 9 et 10. Bon, on en a déjà parlé, mais c'est bon de revenir à ces choses-là. Paul est arrivé à Corinthe et il a fait face à une opposition des Juifs très violente. Regardez verset 9, chapitre 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Alors tout le monde se concentre sur le fait que c'est une vision. Hein, il y a même des théologies qui sont créées à partir de ça. Mais regardons ce que le Seigneur lui dit. « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alors souvent, on se focalise sur le fait qu'il a un peuple nombreux et bon, on va sortir une certaine doctrine de ça, qui est une doctrine vraie. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur parle comme ça à Paul? Parce que Paul avait peur qu'on lui ôte la vie. Mais Paul n'a pas peur de mourir. Non, il n'a pas peur de mourir, mais il a peur qu'on lui ôte la vie. Et là, on s'aperçoit que Paul, c'est quelqu'un qui est tout à fait comme nous. Si on va dans le chapitre 28, au verset 15, on voit quelque chose de semblable, quelque chose sur lequel on glisse. Et c'est plutôt ça que je veux montrer. On glisse sur la chose sans réaliser qu'on a affaire à un homme de chair et de sang comme nous. Hein? Verset 15, « De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce et prit courage. » Mais quelqu'un qui est rempli de courage n'a pas besoin de prendre courage. Paul, en arrivant à Rome, il était découragé. Il avait prié pour venir à Rome, mais il n'avait pas pensé y venir comme ça. Et il était face à quelque chose qui était un grand inconnu. Et voilà, nous nous disons, mais Paul, c'est quelqu'un qui vivait, qui respirait, dont le cœur battait, dont les sentiments étaient touchés, vous voyez. Et on a une vision différente, une vision enrichie, je dirais, du texte que nous avons. Et donc cette lecture, la lecture qu'on fait, cette lecture qui nous pousse à nous poser des questions, à réfléchir. Les 12 convoquent la multitude. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas simplement que... oui, pour reprendre une phrase peut-être qui nous a causé des difficultés, l'Église n'est pas une démocratie. C'est pas les 12 qui ont convoqué la multitude pour voir comment on va arranger les choses. Non. Ils se sont probablement réunis avant, vous voyez. Et c'est important pour nous, de réaliser. Rappelons-nous, quand nous lisons le texte de la Bible, notamment les actes, Paul était découragé. Paul, des fois, avait peur pour sa vie. Et ça va nous aider à enrichir notre lecture. Ici, les apôtres convoquent la multitude, présentent un principe et proposent une solution. Or, nous, on a tendance à lire ce passage comme si leur réaction était en quelque sorte à brûle-pourpoint. Paf, ils savent tout de suite de quoi il faut faire, sans réflexion. Ce n'est pas le cas. Et de façon à voir ça, examinons leur réponse. En premier lieu, on peut voir que les responsables prennent leur responsabilité. Est-ce que, avez-vous remarqué qu'ils ne disent rien en rapport au murmure des hellénistes? La plupart des responsables aujourd'hui se seraient levés comme ça, comme des chefs, et ils auraient dit, mais franchement, regardez-vous, c'est quoi murmurer comme ça? Revenez de votre erreur, n'est-ce pas? Ils ne disent rien au sujet du murmure, et, ni ils ne disent rien non plus par rapport à l'apparente insensibilité des Hébreux. Les Hébreux avaient leur veuve qui était pourvue, tout va bien, tout baigne dans l'huile. On ne s'inquiète pas des hellénistes, vous voyez. Non, les apôtres ne disent rien ça. Ils ne s'attaquent pas non plus aux divisions du monde qui ne devraient pas exister dans l'Église. Ils ne disent pas, mais attendez, il n'y a pas ici d'hellénistes ou d'hébreux et tout ça. Et ils ne font pas un cours sur le fait que l'Église n'a plus de barrières. Parce qu'ils savent qu'en fait, l'Église n'a pas de barrières, mais les gens dans l'Église ont amené des barrières avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas ces choses. Qu'est-ce qu'ils font à la place? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils reconnaissent leur faillite et leur échec. Et là, il y a un merveilleux enseignement, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué que le seul pronom dans la première phrase qu'ils disent, c'est « nous ». Regardez, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Ils reconnaissent leur échec. Ils disent en fait « Nous ne sommes pas suffisants. Nous sommes dépassés. » Et donc, par implication, ils disent « Nous avons failli. Nous n'avons pas vu nos limites. » Alors, ça serait une merveilleuse chose dans l'Église, n'est-ce pas? Et veillons à en revenir, à reprendre, ou à apprendre, à garder, ou à développer cet esprit des apôtres. Prendre nos responsabilités. Quand il y a eu un échec, une faillite, quand on est arrivé aux limites, et qu'on n'a pas vu, il faut le reconnaître. Et ça, c'est fantastique, c'est un enseignement fantastique qu'ils nous donnent, rien que par leur réponse. Vous voyez, il est très probable que face à la situation dangereuse qui commence à se développer dans la communauté de l'Église, les apôtres se soient réunis en conseil, on dira, en groupe d'apôtres. Et la première chose qu'ils ont fait est très rare parmi les responsables d'Église. C'est un constat d'échec ou d'inaptitude. Non pas qu'ils ne sont pas capables de n'importe quoi, mais ils ne sont plus suffisants. Voici une augmentation des disciples, voici deux besoins, les tables et la parole, et nous ne pouvons pas faire les deux choses. Et ça, c'est vraiment un secret, c'est un trésor merveilleux quand dans l'Église, on a cet esprit-là, qu'on réalise qu'on ne peut pas tout. Et c'est très rare, parce qu'on pense pouvoir tout faire. Ça ne vient pas naturellement. C'est la chose importante à garder à l'esprit pour nous. Ce ne sont pas des choses qui viennent de notre cœur. Notre cœur est toujours prompt à penser qu'on peut tout faire ou qu'on ne peut rien faire. C'est la même chose, en fait. Nous voyons aussi ici une repentance. Là encore, elle est implicite. Quelle est la première réaction de quelqu'un qui ne se repent pas? Il accuse les autres. Toujours, toujours, toujours. Ici, les 12 se repentent car ils n'accusent personne d'autre qu'eux-mêmes. Ils prennent leur responsabilité. Et quand nous prions pour l'Église, prions que ceci se passe. Alors, les responsables prennent leur responsabilité. Et si les responsables prennent leur responsabilité, les membres prendront leur responsabilité. C'est important. Deuxièmement, ils ont une évaluation juste de l'Église. L'Église est une nouvelle communauté spirituelle, mais elle est composée d'êtres humains qui sont encore sur la terre, comme nous avons dit. Il y a un besoin de se nourrir spirituellement, la parole de Dieu, et un besoin physique, les tables. Les deux doivent être remplis. Et dans l'Église, nous devons veiller à cela. Si le Seigneur nous donne de grandir au niveau numérique, il faudra qu'on fasse attention à ces deux besoins. Nous ne sommes pas encore dans le ciel. Et certains disent, oh, mais il faut prêcher, prêcher, prêcher. Oui, il faut prêcher, mais quelqu'un qui a le ventre vide ne va pas entendre. Et ce ne sont pas nécessairement aux apôtres de remplir le ventre. Le Seigneur peut donner d'autres dons, il ne donne pas tous les dons aux apôtres. La réaction classique, c'est de se dire, comment est-ce que je peux faire pour m'acquitter de ces deux besoins ? Le résultat est une augmentation de l'échec. Si les apôtres avaient mis simplement des structures pour que eux puissent parvenir à ça, en fait, la situation aurait perduré et aurait empiré. Mais les apôtres ne réagissent pas ainsi. Ils ont conscience que l'Église, c'est le peuple acquis de Christ et qu'en vertu de sa rédemption, Christ fait des dons à l'Église. Et là, on revient à Éphésiens 4, mais aussi à d'autres passages qui montrent les dons de l'Église. Et aujourd'hui, malheureusement, on est trop focalisé sur le fait des dons miraculeux qui ont cessé. Mais le fait que Dieu fasse des miracles, ça n'a pas cessé. Chaque jour, il en fait. Mais on se focalise sur certains dons et on oublie qu'en fait, Dieu donne des dons à son Église pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement de l'Église. Quelle est ma vocation? Comment Christ m'a-t-il doté pour servir son peuple? Et on regardera peut-être une autre fois le passage de l'Éphésiens 4. Hein. Les dons qui sont donnés, qui sont mentionnés là, sont des dons d'enseignement afin que tout le corps fasse le service, l'œuvre du ministère. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu m'a donné pour servir son peuple? Or, très souvent aujourd'hui, on arrive dans les églises, petit e, et c'est qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Qu'est-ce que l'Église peut me donner? Ah, je ne vais pas rester dans cette église parce qu'il n'y a pas d'école du dimanche pour mes enfants. Ça, c'est le truc classique dans les églises en Grande-Bretagne, par exemple. Non, qu'est-ce que moi je peux faire pour servir le peuple? Et nous voyons tout le bien fondé de la parole de Dieu. Il n'est pas convenable, disent les apôtres, que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Mais bien souvent, cela vient de ce que nous établissons une hiérarchie dans les services. Ce qui est une véritable autoroute vers le sacerdotalisme. Et nous le voyons cela même dans les églises de la grâce. On dit, non, vraiment, la parole de Dieu, ça c'est suprême. Alors, on dira oui. Mais cela n'empêche pas l'autre. Il y a des besoins dans l'Église, d'autres besoins. Et ce sont des choses qui sont à fournir, auxquelles il faut répondre. Sinon, voilà un tel qui devient presque un pape dans l'Église. Et ça ne vient pas de Christ. Pas du tout. Non, il n'était pas convenable que les apôtres servent aux tables, ou plutôt délaisse la parole de Dieu pour servir aux tables. Pourquoi? Parce que Christ ne les avait pas appelés aux tables, mais au service de la parole de Dieu. Mais s'il y a un besoin de servir aux tables, Christ pourvoit à ce besoin aussi, avec d'autres personnes. Et ces gens-là sont tout aussi nécessaires dans l'Église que les apôtres. C'est important à voir. Et si Christ vous a donné des dons pour servir spirituellement aux tables, est-il convenable que vous brûliez d'envie d'encombrer la chair? En fait, on peut prendre la parole des apôtres à l'envers, dans le sens que pour eux, il n'était pas convenable de servir aux tables parce que ça n'était pas leur vocation. Mais si quelqu'un donne la vocation de servir aux tables, on n'a rien à faire en chair. Et ça réglerait beaucoup de choses dans l'Église si on avançait ainsi. Troisièmement, les apôtres s'appuient sur la révélation de Dieu. Là encore, la chose n'est pas particulièrement évidente à première vue, surtout dans nos versions. Mais Luc ici n'écrit pas au hasard. Luc est un homme qui écrit très précisément. C'est un homme très instruit. Et par exemple, quand les apôtres disent, ici au verset 3, les douze ont convoqué, ils ont dit « il n'est pas convenable », verset 2, « que nous laissions la parole pour servir aux tables ». C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, et ainsi de suite. Et quand ils utilisent le verbe « choisissez », ils n'utilisent pas le mot « usuel », comme dans le choix du douzième apôtre, au chapitre 1, quand Pierre se lève et qu'il dit au sujet de Judas, et donc il y a quelqu'un qu'il faut, il faut que quelqu'un remplace Judas, il dit, mais voilà, il faut choisir quelqu'un. Mais ce n'est pas ce mot-là que les apôtres utilisent ici. Ils disent « choisissez », et le mot qu'ils utilisent renvoie à une prière que Moïse fait à Dieu en Nombre 27:15, quand il lui demande de nommer un remplaçant pour lui-même, pour conduire le peuple dans Canaan. Regardons Nombre 27:15. Nombre 27, verset 15, « Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme les brebis qui n'ont point de berger, mais établisse. » Et c'est ce mot-là, hébreu bien sûr, qui sera traduit dans la version grecque de l'Ancien Testament, par le mot que les apôtres utilisent ici. C'est intéressant, en fait, que leur solution se fonde sur la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Face à leur échec, les douze s'appuient sur un exemple d'échec dans la révélation de Dieu. L'Ancien Testament, l'occasion où Moïse est interdit d'entrer dans Canaan. Ça, c'est l'échec de Moïse, n'est-ce pas? Tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il représentait la loi. Et la loi n'entre pas dans le... Mais il s'appuie sur la révélation de Dieu pour trouver la solution au problème de l'Église. Et c'est un enseignement extrêmement riche pour nous. Cela est confirmé par le fait qu'ils imposent les mains aux sept à la fin du passage que nous avons lu. Les voilà, l'Église a choisi les sept et ils imposent les mains. Comme Dieu instruit Moïse de le faire à Josué, son successeur. Donc vous voyez, on n'a pas quelque chose de magique là. Il n'y a pas une espèce de fluide qui passe des mains des apôtres. Non. En fait, ils suivent exactement l'enseignement de Dieu. C'est une reconnaissance. Voici, Dieu a donné des dons et nous reconnaissons les dons pour une certaine tâche, pour une certaine mission. Et c'est dans ce sens-là qu'on a cette imposition des mains. Et donc, la démarche des apôtres est très riche d'enseignement pour nous. Retournons pour tous nos problèmes, toutes nos difficultés, à l'enseignement de la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Dieu a révélé ces choses. Est-ce que les apôtres ont pensé à Abraham et Lot? On ne sait pas. Probablement, c'était inspiré de Dieu. Mais il y avait ce précédent. Et puis, ils ont trouvé ce précédent dans la vie de Moïse et de Josué. Et voilà ce qui les a guidés. Et c'est intéressant. Donc on a vu la crise, on a vu les apôtres. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Voyons maintenant la solution. les apôtres ont bien réfléchi à la fois spirituellement et bibliquement. C'est-à-dire qu'ils sont fondés sur la révélation de Dieu, mais ils réfléchissent aussi. Et ils réfléchissent d'une manière spirituelle, comme des hommes nouveaux. Ils convoquent l'assemblée entière, non pour procéder à un vote démocratique, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire, mais pour l'enseigner quant à la solution que les responsables qu'ils sont proposent. Et là, on voit vraiment le merveilleux équilibre. Tout le monde est dans l'Église et tout le monde a un rôle, mais pas n'importe quel rôle. Et c'est le rôle que Dieu donne. Ce sont eux qui sont responsables par la volonté de Dieu et ils proposent certaines choses, mais ils le proposent à l'Église. Donc voyons un petit peu la solution. Première chose, ils expliquent l'importance des dons de Dieu. Et rappelons-nous que ce sont des dons de Dieu. Ce ne sont pas nos dons. Ils ne sont pas appelés aux tables, mais, et c'est très important, au ministère de la parole. Regardez au verset 4. Et en fait, dans l'original, c'est le diaconat de la parole. Hein? Diaconat ton logos. Hein? Le diaconat, le service de la parole. En fait, ce sont eux qui sont les diacres. C'est vraiment merveilleux de voir cela. Ils sont appelés au diaconat de la parole. Disant cela, ils ne méprisent pas un service en rapport à un autre, mais ils se soumettent à la volonté de celui qui règne dans l'Église. Parce que l'Église, c'est une théocratie, c'est-à-dire que c'est le corps de Christ. C'est lui la tête, c'est lui qui envoie les impulsions, n'est-ce pas, pour que l'Église vive. Donc, ils expliquent l'importance des dons de Dieu. Et celui qui sert aux tables a un diaconat aussi important que le diaconat de la parole. Parce que s'il ne sert pas, certains vont murmurer, et vous savez bien que quand on murmure, on n'entend pas le diaconat de la parole. Deuxièmement, ils reconnaissent la grandeur de la tâche de s'occuper de l'Église. Ils ne peuvent pas tout faire dans l'Église. Et ça, nous avons besoin de l'apprendre. S'ils s'occupent des tables, il leur faudra laisser la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on dit des choses vraies, souvent, mais avec une perspective mauvaise. On dit que le ministère de la parole est important. Alors, il est important, mais pas en lui-même, d'une certaine manière. Il est important et il est primordial parce qu'il sert à enseigner l'Église, pour que l'Église puisse vivre la vie de Christ. Donc tout se centre sur Christ et non pas sur la prédication et l'enseignement par soi-même. On arrive à même faire des idoles des choses les plus saintes. Vous voyez, ça c'est très très important de reconnaître ça. Il leur faudra laisser la parole de Dieu, or ça n'est pas leur vocation. Donc ils reconnaissent la grandeur de la tâche de s'occuper de l'Église. Un homme ne suffit pas. Un groupe d'hommes ne suffit pas. Il faut toute l'Église pour s'occuper de l'Église, parce que Dieu a donné des dons à chacun. Et il faut reconnaître ça. Et là, nous avons des responsables qui sont merveilleux. Troisièmement, ils reconnaissent que l'Église est le corps de Christ. En Nombre 27, le passage auquel nous avons déjà fait allusion, Moïse demande à l'Éternel d'établir, de choisir quelqu'un pour le remplacer. En acte 6, et en s'appuyant sur ce précédent, les apôtres utilisent le même mot, « choisissez ». Mais cette fois, ils demandent à l'Assemblée de choisir leur remplaçant dans la tâche des tables, de servir les tables. Cela manifeste une grande humilité et une grande soumission à Christ. Ce ne sont pas les responsables qui sont le corps de Christ, mais c'est l'Église. Eux, toutefois, sont responsables et doivent agir en tant que tels. Voyez l'équilibre, merveilleux équilibre. Et c'est un équilibre qu'on saisit spirituellement. Dès qu'on sort de ce cadre spirituel, on va d'un côté ou de l'autre. Ils doivent agir en tant que tels. Choisissez des hommes que nous chargerons. Il y a une autorité là qui n'est pas, qui n'est pas à laisser. Et regardez un peu l'enchaînement là. Choisissez, donc il leur demande de choisir des hommes que nous chargerons. Les disciples les présentèrent aux apôtres qui imposèrent les mains. Vous voyez, il y a cette harmonie dans l'Église qui est merveilleuse. Et si nous prions pour notre Église, nous voulons prier ce genre de choses. Absolument dans ce sens-là. Donc, ils reconnaissent que l'Église est le corps de Christ. Ce ne sont pas eux et ça n'est pas leur propriété. Les deux choses. Quatrièmement, tout service dans l'Église est une tâche spirituelle. Remarquons que dans les spécifications requises pour servir aux tables, il n'y a aucune mention de la bonne gestion, d'affabilité, d'esprit d'entreprise et toutes ces choses qu'aujourd'hui, on mettrait en premier, n'est-ce pas, dans la description du boulot. Ceci ne veut pas dire que ces choses ne sont pas nécessaires. Mais pour servir dans le peuple de Dieu, il faut avoir des dons spirituels. Spirituels. Ceux qui décident de la manière dont on s'acquitte de son service sont des considérations spirituelles. Celles-ci feront peut-être appel à des qualifications de gestion et d'organisation, mais ce ne sont que des outils. Par exemple, quelqu'un est le trésorier de l'Église. Alors, normalement, on regarde cette chose-là d'une manière tout à fait mondaine. Hein. Et il y a un certain besoin pour ça, parce qu'il faut aligner des chiffres. Mais dans l'Église, la personne qui est responsable de la bonne gestion des finances de l'Église n'est pas nécessairement un comptable. Il peut utiliser des comptables. Mais il n'est pas nécessairement un comptable. Mais il faut qu'il soit un homme spirituel et spirituellement appelé à s'occuper de cette fonction dans l'Église. Par exemple, pour donner les choses, à Besançon, c'est Denis qui s'occupe de la comptabilité. Alors lui, bon, il est formé en tant que comptable. Mais maintenant, le Seigneur semble le diriger plus vers s'occuper spirituellement de la conduite de l'Église. Et il n'a pas encore la carrure pour ça. Il le ressent bien. Et c'est pour ça qu'il pose des tas de questions. Mais vient le moment où il dit, mais il n'a plus de temps pour cela. Et l'autre jour, je lui disais, mais est-ce que tu as jamais même pensé à utiliser un cabinet de comptabilité? Ça coûte un certain prix. Mais si c'est pour permettre que l'Église avance, ça vaut le coup, n'est-ce pas? Ou alors, est-ce qu'il a donné les dons à... Ça n'est pas nécessaire que ce soit telle personne qui aligne les chiffres. Ça, c'est un outil, ça, c'est rien, vous voyez. Mais, par exemple, ça n'était pas nécessaire que ce soit les 7 hommes qui devaient aller au marché. Il est probable que certaines dames dans l'Église pouvaient négocier beaucoup mieux que ces hommes. Mais c'est à eux de s'en occuper. Et ça, c'est très, très important pour nous. C'est ce que nous voyons aussi, par exemple, dans les qualifications qui sont requises des diacres. Alors là, on parle de diacres. 1 Timothée, chapitre 3. Versets 8 à 13. Là, en fait, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui vont s'occuper de la vie peut-être plus pratique de l'Église. Hein. Mais quels sont leurs dons? Ce sont des dons qui sont regardés d'une manière spirituelle. Ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, des gains sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'est-ce que ça a à faire avec servir aux tables? Et pourtant, c'est une des réquisitions, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère et ainsi de suite. Donc vous voyez, et la question est donc soulevée, acte 6, est-il le récit de l'institution du diaconat? Et ici, nous avons une leçon très très importante, à mon avis. Comme nous l'avons indiqué, le terme diacre n'est pas utilisé. Il y a le terme diaconat, mais utilisé pour les apôtres. En fait, comme je dis, oui, le diaconat dont il est question, c'est celui du le service de la parole. En plus, il est clair que Étienne était un prédicateur. Et c'est vraiment, c'était son point fort. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va faire face à une grande opposition et finir par mourir. Et Philippe lui-même, on sait que dans le reste du livre des Actes, il est présenté chaque fois comme un évangéliste. C'est-à-dire celui qui va présenter l'évangile en dehors du cadre de l'Église. Mais en acte 6, nous avons en fait une situation qui se développe et qui menace l'unité de l'Église, la vie de l'Église. Nous avons donc l'intervention des responsables en conjonction avec toute l'Assemblée pour répondre spirituellement à une situation de besoin, une situation de crise. D'ailleurs, en fait, les 7 hommes qui sont nommés pour cela, ils n'ont pas pu servir pendant très longtemps à leur service-là. Parce que l'Église, très rapidement, elle a été éclatée et elle a dû partir tous azimuts, hein, et s'enfuir. Donc, on n'a pas l'établissement ici des diacres en tant que tels. On a simplement la réponse à une situation. Et ça, c'est très important. Mais, quand les églises ont commencé à se répandre et avoir des besoins de structure, parce que ça, c'est venu. Par exemple, ils ont commencé à se réunir dans des maisons. Et ensuite, bien entendu, à avoir des endroits plus particuliers. On se rappelle que Paul, à un certain endroit, se réunit dans une école de quelqu'un. Bon, il faut savoir qui va payer pourquoi, ainsi de suite. Quand ils ont besoin de structure, le modèle de la solution d'acte 6 sert pour l'enseignement, comme enseignement apostolique concernant ceux qui devaient remplir le service, le diaconat, de la vie pratique de l'Église, pour libérer les serviteurs de la parole et leur permettre d'accomplir leur vocation, pour que finalement l'Église soit enseignée, fonctionne, écoute l'enseignement, s'adonne à l'enseignement des apôtres et finalement devienne un assemblage solide, un corps. Donc vous voyez, il n'y a pas d'institution des diacres en acte 6, mais quand il y a besoin d'instituer un diaconat, on pense à ces choses-là. Et c'est très important parce que, en fait, les apôtres qui sont repartis dans la révélation de Dieu, maintenant, l'Église qui a besoin de se structurer va rechercher dans le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. Et donc, on a ici une Église qui est solide. Et aujourd'hui, malheureusement, on essaye de faire ces choses-là d'une manière de gestion, d'une manière mondaine, d'une manière tout à fait naturelle. Il y a une dimension naturelle, mais ça n'est pas la dimension que l'Église recherche. L'Église recherche à accomplir un service pour l'édification du corps, afin que le corps soit solidement assemblé, afin que le corps puisse fonctionner et donc attirer d'autres. Et pour cela, il faut réagir d'une manière spirituelle. Donc nous avons vu ici une crise dans l'Église. Et veillons, rappelons-nous ces choses-là quand nous connaîtrons des crises dans l'Église. On n'a pas besoin que ça devienne des crises majeures, mais qu'on soit sensible à ces choses-là. Et nous avons besoin de la présence et du ministère du Saint-Esprit, chacun d'entre nous, ici, pour réagir de la manière dont les apôtres et dont l'Église ont réagi. Parce que, regardez, il y a vraiment une unité là. On est dans le cadre, on est dans le contexte d'une Église où des gens murmurent contre d'autres. Et pourtant, regardez, les apôtres viennent et disent « Choisissez parmi vous cet homme dont l'on rend un bon témoignage, plein du Saint-Esprit, de sagesse, que nous chargerons pour cet emploi Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Vous voyez? Et donc, ils obéissent, ils agissent selon cette recommandation, ils élurent. Et ils les présentèrent aux apôtres. Vous voyez, ça, c'est une reconnaissance de l'autorité que Dieu leur a donnée. Mais aussi, c'est une reconnaissance pleine de reconnaissance, en fait, de gratitude, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et donc, le corps continue de fonctionner tout en étant augmenté. C'est merveilleux. Et rappelons-nous ces choses-là et prions que le Seigneur nous conduise dans ce sens. Amen.